peut lire l'Évangile avec de multiples angles de vue. On utilise souvent ce texte pour une catéchèse autour du baptême. Vous me permettrez ce matin d'en faire une autre lecture, éclairée par ce magnifique tableau de Félicie sur le thème de la rencontre de l'autre. Car dans son quatrième chapitre, Jean met en scène les deux personnages les plus antinomiques de la société d'alors. D'un côté un homme, de l'autre une femme, d'un côté un juif, de l'autre une samaritaine, et l'on sait combien les juifs à cette époque étaient racistes vis-à-vis des samaritains. D'un côté un homme de bonne vie qui prêche dans les synagogues, de l'autre une femme dite de mauvaise vie. Voyons comment se déroule la rencontre de l'autre. Prenons conscience tout d'abord que la femme n'est pas venue chercher de l'eau au puits. Parce que si vous pensez que la femme est venue au puits pour puiser de l'eau, vous ne pouvez rien comprendre au texte. Il y a d'ailleurs quelques indications. La scène se passe à l'heure du plein midi. Et dans les pays chauds, aucune femme ne va chercher de l'eau à l'heure du plein midi. Elle serait chaude en arrivant à la maison. On va chercher de l'eau soit à l'aube, soit au crépuscule. Et d'ailleurs, deuxième indice dans le texte, à la fin, elle laisse là sa cruche. Autrement dit, ce n'est pas pour cela qu'elle était venue. Alors, qu'est-ce qui l'a mis en route? On a encore quelques indications. Une femme qui nous est présentée comme vivant son rapport à la sexualité de manière très adolescente. Vous savez, cette manière où on plaque sur l'autre l'image d'un personnage idéal, et puis dès que l'autre ne correspond plus à son image de prince charmant ou de belle princesse, alors on coupe la relation et on réinvestit son capital affectif sur un autre. Une sorte de multiplication d'expériences amoureuses et on est dans l'incapacité de pouvoir inscrire l'amour dans la durée. Alors un beau jeune homme arrive de l'étranger et si c'était lui, alors on se met en route. Et comme dans toutes les stratégies drague bien connues chez nos jeunes, si une fille se trouve près d'un cinéma, on vient avec un programme de cinéma. Si elle se trouve en salle d'études, on vient avec un livre de mathématiques. Comme il se trouve auprès d'un puits, on vient avec une cruche, se disant sans doute, avec une cruche, j'aurai l'air moins cruche. Et voici donc que la rencontre se déroule, et elle se déroule en 5 étapes. Première étape, donne-moi à boire. Jésus met l'autre en situation de donner. Ce qui déstabilise complètement cette femme. Car c'est elle qui était venue chercher. Et voici que Jésus renverse d'emblée. C'est à toi de me donner. S'ensuit un premier dialogue qui ne fonctionne vraiment pas bien. Jésus essaie d'élever la femme à la dimension symbolique de l'eau, au sens, elle reste à une lecture très matérielle. Vous savez, ça me fait penser, quand on est animateur pastoral, à ces heures passées avec des jeunes en dernière année de collège, alors pendant une heure, on essaye d'élever un peu la réflexion au niveau de la dimension symbolique. Et à midi moins 5, arrive la question, quand est-ce qu'on mange? C'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Et Jésus essaie d'évoquer cette dimension de la vie éternelle, et voici que la femme répond, bah, écoute, donne-la moi, comme ça j'aurais pu à revenir pour puiser. Troisième étape, où tout bascule, parce que je ne sais pas si vous avez saisi le rapport entre la question et la réponse. Jésus dit, donne-moi, non, la femme dit, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus répond, va, appelle ton mari et reviens. Et pourtant, c'est là où tout bascule. Car c'est là où Jésus fait découvrir à la femme qu'il la comprend, qu'il la rejoint au cœur de sa difficulté. Vous savez, j'imagine une scène où une jeune animatrice, récemment mariée, son mari est parti à l'étranger, et puis c'est la fête de fin d'année, et voici qu'on lance une musique, et voici cette jeune animatrice dans les bras d'un jeune animateur qui vient d'arriver. Le seul conseil que je peux donner à cette jeune femme dans cette situation, c'est parler de son mari. Tout de suite, ça remet de la distance. Tout de suite, ça remet de la distance. C'est ce qui se passe dans ce dialogue. Jésus qui sent bien cette volonté d'approche de cette femme, eh bien, remet de la distance en faisant appel au mari. Et la femme dit, j'ai pas de mari, c'est son véritable problème. Elle est dans l'incapacité d'inscrire l'amour dans la durée. Et Jésus lui dit, tu dis vrai, parce que tu en as déjà eu 5. Et puis avec le 6e, ça risque de se passer toujours de la même manière, car il me semble que l'on ne peut inscrire l'amour dans la durée que si on accepte d'être déçu par l'autre. Tant qu'on n'a pas été déçu par l'autre, on est plus amoureux de l'image idyllique qu'on se fait de lui que de sa propre réalité. Or, la réalité de l'autre est toujours un peu différente de la représentation qu'on peut s'en faire. Grandir dans l'amour, c'est accepter d'être déçu, non pas au sens moral du terme, mais au sens que l'autre ne correspond jamais vraiment à la représentation que je me peux faire de lui. Et voici donc que Jésus pointe du doigt la difficulté majeure de cette femme, mais en disant « je ne serai pas le 7e ». Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Jésus la rejoint dans son véritable problème, qu'alors elle découvre qu'il est prophète. Et s'ensuit, 4e étape, un 2e dialogue qui lui fonctionne tout à fait bien. Mais c'est elle qui pose des questions et Jésus apporte des réponses. Car c'était une vraie question à l'époque. Les Samaritains nous disent qu'il faut adorer en haut de la montagne, là où Moïse a reçu les tables de la loi, et puis vous, vous dites qu'il faut adorer au temple. Et la réponse de Jésus, quand on adore Dieu, en esprit, en vérité, on peut adorer dans le métro, dans sa cuisine, dans sa salle de classe, dans la salle de bain. Quand on adore Dieu, en esprit, en vérité, il n'y a pas de lieu consacré. Tout lieu peut devenir un lieu sacré. Et 5e étape, eh bien la femme laisse sa cruche et va à la rencontre des Samaritains. Et elle témoigne. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'a pas dit grand-chose, hein. Il a dit « va, appelle ton mari et reviens ». Mais nous savons qu'au sens biblique du terme, tout ne signifie pas la totalité. Tout signifie le sens. Il m'a révélé le sens de mes conduites. Parce que vous savez, c'est fatigant de vivre le rapport à l'affectivité, à la sexualité de la manière de cette femme. Où il suffit que surgisse un inconnu et on laisse tout tomber et on part dans cette quête apprendre à inscrire l'amour dans la durée. Et les Samaritains se mettent en route. Ce chapitre 4 de Saint Jean constitue une merveilleuse leçon de pédagogie pour la pastorale. Je pense que Don Bosco s'en est largement inspiré dans ses rencontres avec les jeunes. Première étape, mettre le jeune en situation de donner. Dans ma vie d'éducateur spécialisé, j'ai accompagné bon nombre d'adolescents suicidaires. J'en ai rencontré beaucoup qui vivaient dans des familles aimantes, qui avaient rencontré une kyrielle de psy. Mais ce qui a manqué parfois, c'est rencontrer un adulte capable de lui dire « j'ai besoin de toi ». Alors ils se vivent comme des problèmes. Et parfois arrive l'idée noire qu'en se supprimant, ils suppriment le problème pour l'entourage. Deuxième étape, s'appuyer sur les demandes matérielles. Et Jésus a respecté le prétexte de l'eau. J'entends des fois des animateurs en pastorale qui sont désolés parce qu'ils ont fait une liste des thèmes que les jeunes voulaient étudier. Relation parent-enfant, relation garçon-fille, l'école, et pas un mot sur Dieu. Mais qu'importe, on peut parler de Dieu en parlant des relations parent-enfant. On peut parler de Dieu en parlant des relations garçon-fille. On peut parler de Dieu en parlant de l'écologie. Respecter le prétexte. Jean Bosco s'est d'abord appuyé sur la réponse aux demandes matérielles, de logement, de travail, de formation. Troisième étape, les rejoindre au cœur de leur questionnement, au cœur de ce qui peut poser problème dans leur vie d'adolescent, de jeune. Quatrième étape, eh bien répondre à leur questionnement. Et ce sont eux qui sont acteurs dans cette évangélisation. Jésus ne fait que répondre aux questions. Et enfin, 5e étape, ben, s'appuyer sur eux pour que les copains viennent. Lorsque Don Bosco est arrivé dans les faubourgs de Turin, ses premiers essais furent des échecs. Il a passé 2 mois, septembre, octobre, novembre, 3 mois même, à essayer sur les marchés de tisser du lien. Rien qui arrivait à naître. Et puis il y a une rencontre en profondeur avec Barthélemy, un peu comme Jésus et la Samaritaine. Et Barthélemy a amené les copains. La pédagogie de la Samaritaine, c'est se dire, commencer par rencontrer en profondeur et puis laisser celui qui a été rencontré agir auprès des copains. C'est comme ça que Jésus a évangélisé la Samarie. Il n'a pas fait un grand discours en rassemblant les Samaritains dans un lieu. Il a rencontré en profondeur la Samaritaine, et ensuite c'est elle qui a été témoignée. C'est comme ça qu'a fait Jean Bosco dans les faubourgs de Turin. Il a rencontré en profondeur Barthélemy, et ensuite c'est lui qui a été témoigné. Oui, ce chapitre 4 de Saint Jean, je crois, pour nous tous, une merveilleuse leçon de pédagogie et de pastorale. Aujourd'hui, nous sentons combien bon nombre de jeunes sont culturellement éloignés de nous-mêmes, de la génération précédente. Alors, s'inspirer de ce texte où Jean met en scène les deux personnages les plus éloignés qui puissent exister peut être source d'une grande inspiration. La femme samaritaine, on ne connaît même pas le nom. Mais chaque fois dans l'évangile que la personne n'est pas nommée, c'est toujours une invitation pour le lecteur à se mettre à sa place.